Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous prenons soin de vous, de vos petits et gros bobos. Et pour m'accompagner dans cette tâche, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un thème passionnant. Nous allons parler de ce que notre corps peut nous apprendre sur notre cerveau. Je m'explique. Quand on vous fait des chatouilles, quand ça vous démange, quand vous avez les mains moites ou que vous bâillez, ça vous paraît anodin. Et pourtant, dans votre cerveau, tous les neurones s'emballent. Notre invité du jour est neurologue, c'est le docteur Laurent Vercueil. Et lui, il a décortiqué tous ces petits mots du quotidien dont on ignore qu'ils impliquent beaucoup de choses sur le plan cérébral. Il va nous expliquer tout ça. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, nous répondrons à vos questions. Mais désormais aussi, celles qui concernent donc les petits et gros bobos du quotidien. On sort un peu du coronavirus. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de l'amitié qui vient parfois poser problème dans certaines aventures amoureuses.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point rapide sur le coronavirus. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons en ligne Christian Clos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes explorateur-chercheur et directeur de Human Adaptation Institute, un institut qui a participé à une vaste étude scientifique sur nos capacités d'adaptation, la gestion sociale et l'identification des troubles psychologiques provoqués par la crise du Covid-19. Alors Christian, vous étiez déjà venu dans l'émission et là, ça y est, donc vous avez des premiers résultats. On va en parler, mais d'abord, juste rappelez-nous peut-être le design de cette étude, c'est-à-dire qui vous avez interrogé, comment ça s'est déroulé.
Oui, alors en quelques mots, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment constituer des cohortes spécifiques, hein, parce que ça prend trop de temps, puis surtout on était dans un confinement, on ne pouvait pas aller voir les gens. Donc on a lancé un questionnaire très complet avec plus de 250 items auprès d'une population large. Hein, ça avait des réseaux, des médias, des réseaux d'associations pour pouvoir toucher le plus de monde possible. On a presque 10 000 personnes qui ont répondu à la phase 1 de cette étude, ce qui fait un panel assez intéressant et représentatif finalement.
Alors la crise du Covid-19, c'est une crise mondiale, hein, d'une ampleur exceptionnelle, ça tout le monde est déjà d'accord pour le dire. Mais comprendre ce qui s'est passé psychologiquement dans la population finalement, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but de vos travaux? C'est pour en tirer, j'imagine, des leçons si ça devait se reproduire?
Oui, tout à fait. Il faut peut-être sortir aujourd'hui d'une étude qui est seulement d'observation. Il faut rentrer dans des études aujourd'hui qui sont des études action, qui permettent non seulement de comprendre au plus près des situations, au plus près de la réalité, pour pouvoir ensuite influencer et faire en sorte d'être mieux armé peut-être pour les futures situations. Mais mieux encore, si on comprend les mécanismes d'adaptation, on peut aussi peut-être changer certains paradigmes pour éviter que certaines crises se profilent devant nous, et notamment on pense aujourd'hui aux crises écologiques, climatiques et environnementales, qui pourraient peut-être être évitées si on changeait quelques paradigmes de nos comportements. Et pour ça, comprendre comment un humain s'adapte quand il est soumis à des crises, c'est peut-être mieux comprendre comment on pourra l'aider pour le futur.
Mmh. Docteur Jimmy Mohamed.
Et justement, qu'est-ce qui ressort de cette étude? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui a fait le plus peur aux citoyens, par exemple?
Alors, je dirais que, étonnamment, c'est pas forcément le virus en tant que tel. Alors, au début, oui, le premier jour du confinement, le virus est ce qui fait le plus peur, mais très rapidement, on quitte cette peur. C'est pas tellement une peur pour nous qu'une peur pour les autres. Ça, c'est assez normal. On a plus peur que nos proches tombent malades. Mais très rapidement, ça se déplace sur une peur sur le long terme, à savoir la crise économique, la crise sociale, la casse potentielle de nos systèmes démocratiques. Et puis finalement, on arrive dans une confusion très rapide par rapport à l'ensemble des informations qu'on reçoit. Donc clairement, petit à petit, la crise n'est plus une crise sanitaire, mais devient une crise finalement de communication et de capacité à comprendre ce qui se passe et comment on pourra s'en servir pour son futur.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu des variations dans vous avez interrogé, vous m'avez expliqué un panel assez large, j'imagine, avec des âges différents, des métiers différents. Est-ce qu'il y a des variations justement en fonction de l'âge, du métier exercé? Bon, on n'a pas le temps de tout détailler, mais c'est quoi le profil des gens qui ont eu peut-être les meilleures capacités d'adaptation?
Alors, on ne peut pas aller encore trop loin là-dessus, parce qu'il faut pour ça qu'on fasse beaucoup plus de sous-groupes. On a pour l'instant plutôt une moyenne générale sur l'ensemble de nos répondants. On voit quand même se dessiner que les personnes qui ont très très bien vécu le confinement, je dirais même qui ont trouvé qu'il n'y avait pas de problème à cette histoire, et les personnes qui ont le plus de difficultés, qui ont ressenti le plus d'anxiété, sont les personnes qui ont le moins projeté de possibilités pour le futur. Alors, pour les seconds, on peut bien comprendre, hein, quand on est en état de désarroi, d'anxiété, de profond stress, on a du mal à se projeter, ça c'est normal. Mmh. Pour ceux qui vont très bien, ça confirme peut-être quelque chose qu'on est en train d'observer de plus en plus dans les cas de crise, que finalement, quand on ne comprend pas qu'on est soumis à un problème, on a du mal à se dire qu'il faudra agir pour le changer. Et c'est peut-être d'ailleurs une des explications de la difficulté que nous avons de projeter sur les changements climatiques, puisque beaucoup de monde ne se sent pas encore concerné par le problème du climat. Donc ça, c'est assez intéressant.
Et dans votre étude, il y a vraiment des gens qui ont répondu « tout va très bien, tout roule ». Ouais, vraiment, il y a une part de la population
oui,
qui…
Oui, absolument. Alors, ouais. D'ailleurs, on l'a vu un peu dans ce confinement, on disait « ah, c'est super, on peut faire son pain, on peut prendre du temps pour soi, on a enfin du temps pour faire des choses qu'on n'avait pas le temps avant ». Donc il y a certaines personnes qui, et c'est plutôt bien pour ces personnes-là, hein, qui sont rentrées dans le confinement comme finalement un temps, une parenthèse, une bulle, sans forcément se rendre compte que quand on rentre dans une bulle, il est parfois difficile d'en sortir. Et c'est d'ailleurs un des marqueurs importants, c'est que finalement… Le sentiment d'anxiété et de stress est bien plus important au sortir du confinement que pendant le confinement.
Ouais, c'est très intéressant. Docteur Jimmy Mohamed.
Beaucoup de Français sont pleins de troubles du sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans votre étude ?
Oui, c'est marqué. Alors, on a un trouble du sommeil qui s'est marqué dès le début du confinement par une dégradation de son temps de sommeil pour certaines personnes. D'autres ont dormi beaucoup plus parce que peut-être, justement, ils avaient tout d'un coup du temps. Mais on a quand même 30% de personnes qui déclarent une vraie dégradation et qui augmentent encore avec le déconfinement puisque 20% supplémentaires considèrent qu'ils ont des troubles de sommeil. Et vous savez mieux que moi que c'est difficile pour les gens d'évaluer la réalité de leur sommeil. Et là, on a quand même des personnes qui déclarent avoir des multi-réveils pendant la nuit.
77%, je crois, des gens qui déclarent des réveils comme ça au moins une fois dans la nuit, alors qu'ils n'en avaient pas forcément avant. C'est énorme.
Une fois, absolument. Et puis, on a des gens qui sont jusqu'à 3, 4, 5 réveils dans la nuit. Donc là, c'est clairement un marqueur d'un sommeil dégradé et qui peut devenir gênant si on ne le prend pas en charge, parce qu'on sait bien que cette fatigue qui est secrète va avoir des répercussions à long terme.
La fatigue aussi, vous avez interrogé là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent les participants ?
On a clairement, au sortir aujourd'hui de la crise, pratiquement 50% des personnes qui se considèrent fatiguées mentalement, moralement et un peu physiquement même. Et parmi ces personnes-là, ces 50% de personnes qui ont un marqueur de fatigue avancé, 20% presque, 18% déclarent un multifacteur de fatigue et de stress avec des anxiétés, des pertes de sommeil, des pertes d'émotions. On a par exemple des tas de gens qui ont arrêté de rire. On a 14% des personnes qui disent « j'ai arrêté de rire ». C'est vraiment, ça paraît pas beaucoup 14%, mais si on ramène ça à la population française, c'est pas rien. Donc on a vraiment aujourd'hui environ 18% de notre population qui est clairement polytraumatisée en termes cognitifs, et il va falloir les prendre en charge pour leur permettre de mieux se projeter vers le futur, sinon ils vont rester dans une difficulté mentale profonde.
Résultat passionnant, Jimmy.
Et justement, qu'est-ce qui ressort justement de la perception du futur ? Qu'est-ce que les gens veulent ? Est-ce qu'ils veulent tous retourner au monde d'avant où ils ont besoin de changements clairs et francs ?
C'est encore très, très peu clair pour la plupart des gens. On a 95% des gens qui déclarent « je veux un futur différent ». On doit mieux prendre en compte les problèmes climatiques, mieux prendre en compte les problèmes sociaux. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, on a quand même 43% des répondants qui voudraient aussi revenir au monde d'avant. Donc déjà, on a une première dichotomie. Deuxième chose, sur ces personnes, donc ces 95% de personnes qui voudraient un monde différent, seuls 20% ont commencé à se dire « comment est-ce que moi je peux éventuellement faire quelque chose pour ce futur ?» 80% des gens ne changent rien encore à leurs habitudes, n'ont pas entamé d'apprentissage ou de changement significatif pour pouvoir le faire. Nuance quand même, et c'est important de le dire, on vient de sortir du confinement. Il faut aussi laisser un peu de temps maintenant aux gens de se reposer, de retrouver une stabilité émotionnelle pour peut-être commencer à agir dans le futur. C'est pour ça que notre étude, elle va continuer encore une année, parce que les Français ne feront rien.
Qu'est-ce que vous allez leur demander pendant cette année encore qui va se poursuivre ?
Alors, on va faire trois choses. La première, c'est qu'on va essayer de comprendre si finalement il y a quand même des mécanismes qui se mettent en œuvre qui pourraient répondre à cette envie de changement dans le futur de 95% de la population. On va essayer de comprendre aussi leur mémoire. Comment finalement ils vont se souvenir de ces événements et comment ils pourront s'appuyer sur cette mémoire ou non pour essayer de comprendre un futur encore inconnu. Ce qui est intéressant avec le virus, c'est qu'on ne le voyait pas, on ne le sentait pas, et pourtant il nous a impactés. Alors peut-être qu'on peut mieux comprendre ça pour faire comprendre les problèmes du futur. Et puis on va aussi surtout essayer petit à petit de rentrer dans cette fameuse étude action en proposant des mesures concrètes, des actions concrètes qu'ils pourraient entreprendre eux-mêmes pour justement quelque part forcer un peu cet engagement au changement.
Merci beaucoup Christian Claude d'avoir accepté notre invitation, c'était très intéressant. Bonne continuation et merci encore.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le neurologue Laurent Vercueil qui va ouvrir en grand avec nous, vous allez voir, une fenêtre sur notre cerveau. Restez avec nous, je vous le promets, ce sera passionnant là aussi. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Laurent Vercueil. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes neurologue au CHU de Grenoble-Alpes, chercheur à l'INSERM. Vous êtes également l'auteur du livre Chatouille et autres tracas neurologiques aux éditions Belin. Docteur Vercueil, avec vous, on va donc parler des tracas, on va dire, du quotidien, comme les frissons, les bâillements, le sursaut. Et tout ça, vous dites que ce sont en fait des orages en nous, dans notre cerveau, c'est-à-dire ?
Bah, c'est en fait l'impression qu'on a par moment que tout d'un coup notre corps nous échappe et que c'est lui qui impose sa volonté en quelque sorte. Hein. On est un peu confortable là-haut dans notre conscience et tout d'un coup on va éternuer ou on aura un hoquet ou on se fait chatouiller. Et là c'est comme si le corps prenait possession en fait de notre volonté. Alors qu'en fait le corps il est bien dans notre cerveau aussi et dans notre cerveau nous avons des régions dans lesquelles en quelque sorte notre corps nous parle.
Alors on va commencer docteur Vercueil avec les chatouilles parce qu'on aime tous ça. Enfin moi j'aime bien les chatouilles. J'aime bien en faire surtout, moins en recevoir, je ne sais pas pourquoi. Les chatouilles, c'est quoi le rapport avec le cerveau ?
Eh bien, le chatouille, c'est un phénomène qui, sous une apparente simplicité, est en fait une grande complexité. Parce que, effectivement, c'est simple, on se fait chatouiller, on rit, mais c'est pas aussi naturel. En fait, il faut quand même que ce soit bien les doigts de quelqu'un d'autre qui nous chatouille. Et, parce que si on essaie de se chatouiller tout seul, c'est les chatouilles.
C'est vrai, l'auto-chatouillement, donc, ça marche pas. Hein,
ça ne marche pas. Il faut mieux que ce soit quelqu'un avec qui on a des relations plutôt amicales, enfin, qu'on soit assez proche et intime, même. Hein, parce que si c'est un étranger qui essaie de vous chatouiller, vous n'allez pas rire du tout. Et puis enfin, on n'est pas chatouillé partout. Il y a des régions qui sont chatouilleuses et d'autres pas du tout. Or, notre peau, qui a des récepteurs un petit peu partout, n'est pas sensible de la même façon dans toutes les régions. Et les régions les plus sensibles ne sont pas du tout les plus chatouilleuses. C'est assez étonnant.
Oui.
Mais en pratique, on explore l'environnement avec notre peau, avec nos doigts, avec la pulpe de nos doigts, où on a une densité de récepteurs extraordinairement élevée pour avoir une précision dans ce qu'on ressent. Mais les endroits qui sont chatouilleux, ce sont au contraire les endroits où il n'y a pas tellement de récepteurs, de densité de récepteurs. Donc il y a encore autre chose qui se passe.
Et il se passe quoi alors ?
Il se passe qu'en fait, ce sont des régions, notamment des régions qu'on garde un petit peu cachées, proches de nous, contre nous, les aisselles, le cou, le ventre, les flancs, etc. Des régions qu'on veut protéger. Et si on se laisse approcher par quelqu'un avec ses doigts un peu agités, eh ben, on se sent un petit peu en danger et on en joue. Et ça relève un petit peu presque de l'étymologie du mot chatouille qui vient de chat et des jeux de chat. Et en fait, on est dans le jeu, on est dans l'émotion du jeu. Et les régions qui sont des régions vulnérables, le cou, il y a des vaisseaux sanguins qui passent, qui sont de gros vaisseaux. Les selles aussi, hein, il y a des vaisseaux qui vont irriguer le bras. Ce sont des régions qui sont assez dangereuses pour nous. Les laisser approcher par quelqu'un qui vient nous chatouiller, eh ben c'est un peu de stress. Mmh. Mais quand on est dans le jeu, eh ben c'est un stress qui se transforme en rire.
Jimmy ?
Et justement, pourquoi est-ce qu'on est plié en quatre ? On ne peut pas s'empêcher de rire à ce moment-là. Est-ce qu'on a une explication ?
Eh ben oui, ça c'est le rire. Alors on l'expérimente aussi avec le fou rire, hein. C'est-à-dire que on peut pas s'empêcher. Si en nous monte l'émotion positive que représente le rire, eh ben elle va sortir de manière complètement involontaire. Et ce caractère involontaire du rire, c'est quelque chose qui est très très marqué et qu'on peut même voir, alors pour nous neurologues en pathologie, puisqu'on a des rires qui sont complètement incontrôlés et involontaires.
Et pourquoi il y a des gens qui sont pas du tout chatouilleux ? Parce que bon, moi j'ai deux enfants, il y en a un qui est très chatouilleux, l'autre pas du tout. C'est qu'on peut l'expliquer comment ? Il y a une explication ou pas ?
Alors oui, ça a été étudié. Il y a des psychologues qui ont regardé quel était le profil des gens en fonction de leur caractère chatouilleux ou pas chatouilleux. Et les gens qui sont chatouilleux sont des gens qui, par exemple, ça a été testé, hein, vont plus facilement rire lorsqu'on leur projette un film comique. Ce sont des gens qui ont plus tendance à sourire de bricoles du quotidien. Donc ils ont en fait une espèce de tempérament tourné vers le positif et qui font qu'ils vont être plus sensibles aux chatouilles, alors que les gens peut-être un petit peu plus sérieux, peut-être un peu plus respectables, vont moins avoir le goût du rire pendant la chatouille.
C'est pour ça que Jimmy ne répond jamais aux chatouilles. Jimmy, allez-y. Il est trop sérieux, allez-y.
Mais on a parlé un petit peu du rire et là du fou rire. Et qu'est-ce qu'il déclenche justement un fou rire ? Parfois, il suffit d'un mot anodin et puis c'est parti. Pendant 10 minutes, on ne peut plus s'arrêter.
Alors, il y a un facteur qui est assez fort hein, pour l'éclenchement du fou rire, c'est justement le contexte où il ne faudrait pas que ça arrive. Le moins il faudrait que le fou rire se déclenche, le plus on est contraint, le plus il va avoir une puissance d'expression qui fait qu'il va finir par s'imposer et toutes les barrières qu'on va essayer d'ériger vont s'effondrer. C'est un petit peu, vous avez les paraboles de l'ours blanc, hein, si on dit ne pensez surtout pas à l'ours blanc, et ben, c'est très difficile de s'empêcher d'avancer quelque chose. Donc à partir du moment où on a un petit peu la petite source de l'émotion qui arrive et qui dit j'ai envie de rire et qu'il faut surtout pas que je ris, et ben ça va être terrible. Ça va être terrible et les fous rires les plus terribles sont ceux qui justement arrivent dans des contextes affreux où tout est sinistre et où quelqu'un va s'esclaffer.
Et notre cerveau, il n'est pas capable de nous arrêter justement puisqu'il est si intelligent, il ne pourrait pas stopper ça quand même.
Et ben c'est un peu l'illusion dans laquelle on est, hein, qu'on va tout contrôler avec notre cerveau là-haut, alors qu'en fait notre cerveau là-haut, il est juste là pour nous raconter des histoires et que ce qui vit d'abord l'expérience, c'est notre corps et nos émotions. Moi je suis un neurologue qui a été formé les années 90. L'année 90, c'est un livre qui nous a beaucoup marqué, nous jeunes neurologues à l'époque en formation, c'était Antonio Damasio, L'erreur de Descartes. Et ce que disait Damasio, le neurologue américain d'origine portugaise, c'est que on est d'abord un corps en train de vivre des émotions, et là-dessus, on ajoute une raison résonante qui nous raconte un petit peu ce qui nous arrive. Mais au départ, on éprouve les choses avec notre corps. C'est pour ça que c'est lui qui a d'abord la main. Et oui. Contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression qu'on est privé de la main lorsque tout d'un coup quelque chose s'impose en nous. En fait, c'est lui qui a la main. Et c'est ça qui m'intéressait dans ce livre, c'était d'aborder un petit peu ces relations entre le cerveau et le corps.
On peut vraiment mourir de rire parce qu'il y a l'expression, mais est-ce que ça, je sais pas, est-ce que ça a un fondement scientifique ou pas ?
Oui, oui, mais malheureusement, ça peut arriver. Hein. En fait, les émotions fortes, qu'elles soient la peur, la peur jusqu'à la terreur ou le rire, voire même, sont des émotions qui vont extrêmement solliciter le corps. Donc le cœur va avoir un gros travail à effectuer. Et on a des cas de gens, alors soit parce que le cœur est fragile au départ, hein, quelqu'un qui a un cœur fatigué, mal irrigué, quelqu'un qui, en s'exposant à une émotion forte, y compris donc positive, y compris le rire, peut très bien avoir un infarctus, par exemple. Et puis on a même chez les sujets jeunes, hein, dans les cas de stress, des pathologies cardiaques qui sont spécifiques du relargage des catécholamines, c'est-à-dire adrénaline et compagnie, qui vont entraîner des malformations et des risques vitaux.
Merci beaucoup docteur Vercueil, ne bougez pas, on ne fait que commencer cet entretien, on vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous décrypter ce que ces petits désagréments ou micro-événements du quotidien provoquent chez nous du point de vue cérébral. Vous allez tout savoir sur le fonctionnement de notre cerveau dans ces moments-là. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus évidemment à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, docteur Laurent Vercueil. Vous êtes neurologue au CHU de Grenoble et chercheur à l'INSERM. Et vous êtes également l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Chatouille et autres tracas neurologiques aux éditions Belin. Docteur Vercueil, moins drôle peut-être cette partie-là. On va s'intéresser à la peur. On parle de la peur, la chair de poule par exemple. Comment on l'explique neurologiquement ? Il se passe quoi ?
Alors la chair de poule, c'est un bon exemple de quelque chose qui vraiment va parler à tout le monde, qui est la prise de main par nos émotions sur un vieux système qu'on a développé très tôt dans l'évolution, qui est le système d'homéothermie, c'est-à-dire celui qui régule notre température interne. Hein. Nous sommes des animaux à sang chaud, nous avons 37 degrés en permanence avec des petites fluctuations, mais pour ça, il faut développer un bon système, et on l'a développé dans l'évolution très il y a très longtemps. Et ce système, il a été recyclé par notre cerveau comme un système d'expression des émotions. Donc, alors vous avez parlé du frisson, on frissonne quand on a froid, mais on frissonne aussi de peur. La chair de poule, vous savez, c'est en gros la contraction d'un petit muscle qui est à la base du poil, qui va le hérisser. Oui. Et ça, c'est très utile aux animaux qui ont un gros pelage, parce que ça emprisonne de l'air et ça leur fait une couche d'air autour d'eux qui les protège du froid. Alors nous, on a trouvé d'autres solutions depuis. On a une peau qui est maintenant un peu glabre, mais on garde encore quelques poils. On a encore de moyens de faire cette petite chair de poule en cas de froid, mais aussi lorsqu'on a une émotion. Et ça, c'est donc des systèmes qui, au départ, sont là pour nous réchauffer, pour lutter contre le froid, le refroidissement interne, et qui ont été ensuite détournés pour être des façons d'exprimer des émotions. Et à l'inverse, le système qui va réguler dans l'autre sens la température, donc qui va essayer de nous refroidir, donc la transpiration, le rougissement, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'exprimer des émotions. Les mains moites, c'est quelque chose qu'on déteste avoir lorsqu'on est un peu émotionné et qu'on sait qu'on va devoir serrer la main. Alors heureusement,
oui, Jimmy,
le confinement est passé par là, c'est fini maintenant, on ne tient plus la main. Mais maintenant, ceux qui ont les mains moites ne sont plus du tout gênés puisqu'on ne sert plus les mains.
Ah non, en ce moment, il est tranquille, hein, justement, c'est ce qu'il me disait ce matin. Jimmy, à vous.
Et le rougissement de honte, le rougissement de colère, c'est aussi un système qui au départ est là pour dissiper la chaleur, interne, pour refroidir notre corps, et qui a été détourné par le système limbique, donc le système émotionnel cérébral, pour exprimer les émotions. Donc, dans le cerveau, le système des émotions est étroitement connecté à un autre système qui est dans l'hypothalamus, qui est le système de régulation de la température. C'est vraiment fascinant de voir comment l'évolution a recyclé des choses qui nous servent moins aujourd'hui à d'autres fins.
Docteur Jimmy Mohamed.
C'est vraiment passionnant ce que vous nous racontez. Et quand on regarde un film, parfois on sursaute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
vous,
pourquoi ?
Surtout moi, non, j'ai jamais peur. Il est fragile.
Alors, le sursaut, c'est quelque chose de très très archaïque et qui est très très bien organisé. C'est en gros un pattern d'activation, c'est-à-dire un modèle d'activation très très spécifique qui est à la base du tronc cérébral. Extrêmement vieux, là. C'est, pour parler un peu comme les anciens, on est vraiment dans le cerveau reptilien. Mais ce sursaut, il est aussi sous l'influence du réseau des émotions. Et si vous êtes devant un film effrayant et que votre voisin derrière vous vous fait une petite tape dans le dos, vous allez sauter en l'air. Alors que si vous êtes devant un paysage bien détendu, etc., vous n'aurez pas du tout ce sursaut. Donc le sursaut est modulé. Et ça, on le voit même à l'échelle de l'individu au cours du temps. Parce que les adolescents, par exemple, qui ont en gros l'adolescence, est une phase où le système de maturation des émotions est extrêmement développé, extrêmement rapide, alors que le système de contrôle est très très en décalage. Il arrive beaucoup plus tard à se mettre en place. Et un adolescent est dans une phase où il va sursauter très très facilement. Alors que si on va un peu plus tard dans la vie, le sursaut est beaucoup moins prégnant, beaucoup moins puissant.
Docteur Vercueil, il y a aussi, on parle de sursaut là, mais il y a aussi ces bruits là qui nous dérangent, comme les ongles qui crissent sur un tableau. Pourquoi il y a des bruits horribles comme ça et on est touché par ces sons et ça nous fait une petite sensation désagréable comme ça?
Alors ça a beaucoup intrigué les chercheurs. Ça, hein. Moi, pour moi, c'est le polystyrène qui sort des cartons et qu'on déballe les.
Rien que vous en parlez, ça
horrible. Et en fait, lorsqu'on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on ressent, on se rend compte que c'est bien plus compliqué que simplement le bruit. Moi, ce que je polystyrène sort du carton, j'ai pas seulement le désagrément auditif, c'est vraiment général, y compris presque tactile. Si je vais essayer d'analyser ce que je ressens, c'est le frottement en fait qui me gêne. C'est le frottement, la sensation du frottement, comme si c'était moi le polystyrène qu'on sortait du carton.
Vous avez raison, c'est ça un peu, hein, ouais.
Et en fait, les chercheurs ont fait l'expérience hein, de, par exemple, faire entendre le bruit, ce même bruit, mais en disant aux participants, en leur faisant ignorer l'origine du bruit, mais en leur disant, par exemple, c'est un bruit de musique contemporaine. Et bien, c'est pas du tout gênant. Mmh. Ou alors en mettant le bruit, en associant à des images qui n'ont rien à voir. On vous montre des images de bonbons, et puis on fait entendre le bruit, c'est pas du tout gênant. Donc vous voyez que, en fait, on n'est pas juste sur une stimulation auditive, comme on a cru un temps, à une époque, l'hypothèse c'était que ça rappelait les cris des bébés, et que donc ça devait susciter des réactions d'alarme, et donc, générer des comportements de protection. Hein.
Oui.
Mais en fait, cette hypothèse a été balayée parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe, que ça faisait appel en fait à des canaux sensoriels bien plus vastes, et que donc, il ne fallait pas que le bruit, mais il fallait aussi dire, si je vous fais entendre une roulette de dentiste en vous disant c'est le dentiste qui attaque votre dent, vous ne serez pas bien. Mais la roulette toute seule, peut-être que ça ne vous fera rien du tout.
On va s'arrêter un tout petit peu, docteur Vercueil, mais bien sûr, on vous retrouve dans un instant.
Europe 1.
Dans quelques minutes, vous l'avez compris, nous allons continuer ce voyage au cœur de notre cerveau avec tout ce qui se passe à l'intérieur de ce dernier, des mécanismes, des fonctionnements dont on ne soupçonne même pas l'existence. On va tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous, votre émission Santé Bien-être revient dans quelques minutes en attendant un peu de musique avec le tout dernier titre du chanteur Miossec. Ça s'appelle tout simplement « En ».
Entre parenthèses. En permission. En suspension.
En vert.
En papillon.
En chien de faïence.
En détention.
En toi, en elle, en lui, en nous.
C'était le dernier titre du chanteur Miossec en duo avec Mirabel Gilly. C'est une chanson réalisée pendant le confinement, quelque part dans le Finistère, qui s'appelle donc En.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. Avec nous aussi notre invité du jour, toujours en ligne. C'est vous, docteur Laurent Vercueil. Vous êtes neurologue au CHU de Grenoble et chercheur à l'INSERM. Vous êtes également l'auteur du livre Chatouille et autres tracas neurologiques aux éditions Belin. On va faire un petit pêle-mêle des petites broutilles, on va dire, qui peuvent nous arriver, que vous avez analysées de près dans votre livre, justement. Vous en avez un petit peu parlé, l'avez évoqué tout à l'heure, là, quand on rougit. Je crois néanmoins que les personnes qui ont la peau blanche et les roux, surtout, sont très touchées par le rougissement. Pourquoi ?
En fait, c'est surtout une affaire de contraste. Hein. Plus votre peau est pâle, plus vous verrez que la dilatation des vaisseaux...
C'est pas un cerveau qui déraille chez les gens qui ont la peau pâle, c'est pas ça.
Non, c'est pas un cerveau qui déraille.
D'accord, donc c'est juste le contraste, c'est tout.
Donc une peau plus mate, plus brune, va moins être facile à détecter en matière de rougissement.
D'accord. Jimmy ?
En cette période de l'année, certains éternuent à cause des pollens et des allergies, et vous êtes intéressé à un autre type d'éternuement, celui provoqué par la lumière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est un éternuement qui en fait est très fréquent et souvent mal connu des gens. Moi, lorsque j'en parle un peu autour de moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « mais oui, mais je suis touché, mais je ne savais pas que c'était ça ». C'est en fait un éternuement qui est déclenché par l'exposition lumineuse brutale. Donc typiquement, vous sortez d'un endroit peu éclairé, un peu sombre, et puis vous arrivez sur un endroit bien éclairé, dans un parvis blanc, etc. Et là, vous éternuez une fois, deux fois ou trois fois. Et c'est un éternuement donc rien à voir avec le mécanisme habituel, hein, qui est la stimulation des fosses nasales. L'éternuement, au départ, c'est fait pour libérer nos voies aériennes et bien respirer lorsque quelque chose obstrue nos cavités nasales. Donc là, c'est vraiment la lumière qui déclenche l'éternuement. Ça s'appelle photic sneeze reflex, ou réflexe photo-sternutatoire. Et puis, il y a des malicieux qui ont appelé ça le Hachou syndrome.
C'est
autosomique. Autosomique, ça veut dire que c'est transmis, parce que dans les familles, c'est transmis de père en fils, de mère en fille.
Ah, c'est pas tout le monde. Il y a quelque chose qui est génétique, héréditaire. D'accord, donc on est des familles d'éternueurs comme ça.
Et c'est à peu près 5% de la population, en tout cas, qui s'éclaire, peut-être même plus. Hein, donc, je suis sûr que vous connaissez vous-même autour.
Vous éternuez, vous, Jimmy, à la lumière, par exemple, ou pas ?
Jamais, je n'ai aucun défaut, ni aucun problème.
D'accord, okay, bon, moi j'éternue, ouais, c'est vrai, quand je suis exposée. Je pensais que c'était plutôt les pollens, parfois, mais c'est vrai que ça le fait beaucoup à la lumière, en fait. Et ça, il se passe quoi dans le cerveau quand c'est dans le nez, en fait. Il n'y a pas le cerveau, forcément, qui est lié, non, si ?
Alors voilà, en fait, au départ, l'éternuement, c'est un petit réflexe qui est dans le point de départ et dans le nez, et puis il y a une petite boucle et un retour et un comportement qui conduit à expulser de l'air très violemment par les cavités nasales. Et en fait, là, c'est pas le cas puisqu'il n'y a rien dans le nez. Ça veut dire que la zone qui déclenche le réflexe s'étend à la région visuelle orbitaire, enfin voilà, autour de l'orbite.
D'accord.
C'est très étonnant parce qu'en fait, on ne voit pas très bien à quoi ça sert, sauf que, il y a une hypothèse, c'est que ça sert à la naissance, au moment où le bébé ouvre les yeux pour la première fois et qu'il s'expose à la lumière. Parce qu'à ce moment-là, le bébé, il a des cavités nasales pleines de liquide. C'est un liquide qu'il a très bien toléré jusque-là parce qu'un bébé, ça n'éternue pas dans le ventre. Ça peut bouger, hein, mais ça n'éternue pas.
Ça peut avoir le hoquet aussi, on va en parler après.
Ça peut avoir le hoquet, exactement. Mais disons que pour lui, avoir de liquide amniotique dans les cavités nasales, ce n'est pas un problème. Donc pour le chasser, il faut trouver un autre moyen de le chasser. Et bien la lumière, c'est une bonne idée parce que lorsqu'on ouvre les yeux, on est exposé à la lumière. Donc la première fois que le bébé ouvre les yeux, il éternue et ça libère les cavités nasales. Et ensuite, ce réflexe disparaît chez la plupart des gens, sauf chez certains, parce qu'il est un peu plus robuste peut-être, qui vont le garder dans leur vie alors qu'il ne sert plus à rien.
C'est passionnant. Docteur Vercueil, j'aimerais qu'on parle donc du hoquet. Pour la plupart, ça passe, hein, mais chez certaines personnes, ça peut persister. Expliquez-nous.
Voilà. Ben oui, il y a des formes de hoquet qui sont persistantes, qu'on appelle incoercibles, réfractaires, et qui peuvent durer des jours, et ça peut être épuisant pour les personnes. Il y a un pape hein, qui est mort avec un hoquet persistant, épuisant. Donc voilà, ça peut vraiment être un problème. Alors, pour le hoquet, on a tous des notions de remèdes de grand-mère. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe toujours un petit peu par un système qui est le système vague, qui semble avoir un effet suppresseur du hoquet. Le système vague, c'est un système qui ralentit un petit peu le cœur, qui ralentit un petit peu la respiration, c'est quelque chose qu'on déclenche par exemple lorsqu'on fait une expiration glotte fermée. Vous savez, vous poussez l'air que vous posez dans les poumons, mais vous le bloquez au niveau de la gorge. Et ça, ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, ça peut arrêter un hoquet.
D'accord. Jimmy.
Une légende prétend que le hoquet du capitaine Haddock pourrait disparaître si le marin avait une sexualité assumée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Eh oui, parce que qu'en fait, il aurait pu y penser, hein, le capitaine Haddock, mais il y a des collègues médecins canadiens qui ont rapporté le cas d'un de leurs patients qui avait un hoquet vraiment incoercible, terrible, et qui, dont la seule façon de le résoudre, finalement, ça a été de faire l'amour avec sa femme. Et c'est peut-être pas si mystérieux que ça, parce que en fait, l'orgasme est aussi un moyen d'activer très puissamment le réflexe vagal. Il n'est pas rare, hein, qu'au cours des orgasmes, il y ait des syncopes vagales, par exemple, donc des pertes de connaissance liées à la stimulation de ce nerf vague. Donc vous voyez qu'on retombe sur le système vagal. Donc si jamais les remèdes de grand-mère ne marchent pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
C'est génial. Ah,
Mélanie, vous n'avez jamais le hoquet d'ailleurs, on ne veut pas dire, mais...
Je trouve ça génial. Non, mais c'est vrai, ça paraît c'est tellement limpide quand vous nous l'expliquez. Ouais. Un mot peut-être, docteur Vercueil, sur le soupir. C'est une manifestation du corps qui relève de quoi finalement?
Alors le soupir, là aussi, on est sur un système qui est très archaïque, très profondément inscrit dans le cerveau, à un étage alors vraiment bulbaire. Le bulbe, c'est la partie la plus basse, la plus profonde du tronc cérébral, et qui consiste en fait à ouvrir un petit peu les capillaires pour les oxygéner. Et si vous voulez, c'est le démarrage, en gros, de la respiration. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi un petit peu tout ce qu'on va faire sur le soupir, lorsqu'on soupire de soulagement, et faire la connexion entre quelque chose qui est extrêmement... Voilà, exactement. quelque chose qui est extrêmement archaïque, qui est extrêmement ancien, extrêmement vieux. Ça sera malheureusement le dernier mouvement qu'on fera, hein, de notre vie, hein, un petit soupir. Notre dernier soupir, c'est le gasp de l'agonie, c'est-à-dire un petit mouvement respiratoire qui est lié au fait que le gaz carbonique s'accumule dans les vaisseaux, et le gaz carbonique, c'est le stimulant le plus fort du centre respiratoire. Et dernier mouvement qu'on aura, ce sera un soupir, on va rendre notre dernier soupir.
Et nous, on va terminer sur ce soupir. Alors merci beaucoup, docteur Vercueil, d'avoir accepté notre invitation pour ce point complet, ce voyage vraiment passionnant au cœur de notre cerveau et son fonctionnement. On comprend beaucoup mieux grâce à vous. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Benoît.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle puisque j'avais vu il y a quelques mois la chanteuse Madonna qui avait fait une vidéo d'elle en train de boire son urine. Alors c'était soi-disant bon pour la santé, pour rester en forme, pour rester jeune. Alors moi, je crois pas vraiment, ça m'aimerait pas à l'esprit, mais je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus, voir si c'était bon pour la santé. Voilà, ben merci beaucoup, bonne journée, bonne émission, au revoir.
Bon Jimmy, alors boire son urine, je sais que vous n'êtes pas spécialiste de la pipithérapie, mais je suis sûr que ça ne vous inspire pas plus que ça.
Détrompez-vous, j'ai la réponse, mais étant donné qu'on va interroger un de nos spécialistes, enfin qu'on préfère, hein, le professeur Gilbert Doré, eh ben, je vais lui laisser la parole parce qu'il faut distribuer un petit peu justement ce temps de parole.
Allez, on écoute Gilbert Doré, sa réponse.
Alors c'est très simple, ça s'appelle donc l'amarolie. C'est pratiqué curieusement par des millions de personnes qui pensent que en fait dans les urines il y a des bonnes choses, des minéraux qui auraient été mis par les reins dans les urines. Donc c'est une grave erreur. C'est une grave erreur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il n'y a strictement jamais eu aucun travail qui ait montré que de boire ses urines était bon pour la santé. La deuxième erreur, elle est même conceptuelle. Ce que le corps met dans ses urines, ce que les reins mettent dans ses urines, c'est justement ce qu'il ne veut pas garder. Donc vous allez y trouver tous les toxiques qu'il a fabriqués tout au long de la journée, que donc vous allez boire. Vous allez y trouver aussi toutes les choses en excès. Oui, vous trouverez des minéraux et des vitamines, mais c'est ce dont vous n'avez pas besoin, puisque le corps ne les a pas gardés. Et on oublie un concept extrêmement important, qui est que si la carence est toxique, l'excès est toxique. Si donc votre corps il a mis dans vos urines des vitamines et des minéraux, c'est que vous n'en avez pas besoin. Et donc ça s'appelle une auto-intoxication de boire ces urines. Enfin, les urines ne sont pas forcément stériles. Et donc en plus, vous pouvez boire des germes. Donc c'est totalement inefficace et c'est dangereux.
Voilà donc pour la réponse du professeur Deray qui était au micro de notre journaliste Benjamin Lévesque. Alors à présent, Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Pierrick. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai des crampes qui me réveillent très régulièrement la nuit. J'ai une impression, voilà, que mon mollet se bloque. Et je voulais savoir comment on pouvait faire pour soulager ça et est-ce que c'était dû à un manque de magnésium ou pas. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, c'est vrai que ces crampes nocturnes, moi j'en ai déjà eu, c'est affreux, hein, ça fait atrocement mal. D'abord, avant de savoir d'où ça vient, peut-être dites-nous, est-ce qu'il y a un moyen, quand ça nous arrive la nuit, comme alors, ça, de se soulager, enfin, on fait comment ?
La crampe, c'est une contraction douloureuse, incontrôlable et brutale, justement d'un muscle, et il ne faut déjà surtout pas mettre de froid, puisque si vous mettez du froid, vous allez altérer la petite circulation, et donc à ce moment-là, vous allez aggraver la crampe, et donc il faut faire ce que vous avez déjà vu pour
je
les footballeurs,
moi,
vous étirez,
ouais,
jusqu'à ce que la crampe cède. Ça doit durer quelques secondes et puis à ce moment-là, vous pouvez vous rendormir éventuellement.
On a l'impression que ça dure des heures, je trouve, quand ça arrive. Alors, pour répondre à la question de Jimmy quand même, ça peut être, est-ce que ça peut être la conséquence d'un manque de magnésium comme
oui, c'est une cause plutôt ouais. facile que tout le monde connaît. Je vais justifier un petit peu ma présence ici en vous offrant de nouvelles étiologies.
Ah, merci,
alors,
c'est gentil.
Évidemment que l'activité physique peut vous donner des crampes, puisque lorsque vous avez un effort soutenu et que vous ne vous reposez pas, et bien à ce moment-là, vous produisez de l'acide lactique qui va être responsable de la crampe. Mais l'inactivité peut être aussi responsable de crampes. Vous restez sédentaire en cette période de confinement. Vous décidez de faire une longue marche ou de marcher beaucoup plus et le soir, vos muscles n'ont pas eu le temps de se relâcher et vous avez une crampe durant la nuit. Vous avez aussi d'autres causes et qui sont parfois plus inquiétantes, les causes vasculaires lorsque vous avez un trouble de la vascularisation, soit des petits vaisseaux sanguins, soit des artères. Et bien à ce moment-là, vous pouvez avoir des crampes nocturnes et il est impératif de faire un bilan. Vous pouvez aussi avoir des médicaments, les statines, tout ce qui est médicaments contre le cholestérol peuvent vous donner des crampes, c'est très fréquent.
D'accord.
Pas forcément nocturnes, en règle générale, elles sont plutôt en journée mais ça peut être aggravé la nuit. Et enfin, vous avez aussi des causes donc, d'insuffisance un déficit en vitamines ou en oligo-éléments. Le magnésium en fait partie, mais vous avez le droit aussi d'avoir un manque de potassium, un problème
au calcium. Ça aussi, ça peut entraîner des crampes.
Et ouais. à ce moment-là, il est utile de faire un bilan.
Alors justement, j'allais vous dire, pour le manque de magnésium sur lequel porte la question, comment on sait qu'on manque de magnésium ? Est-ce qu'il y a d'autres symptômes que les crampes et est-ce qu'on peut faire une prise de sang pour
oui,
vérifier ?
Alors c'est des symptômes qui sont peu spécifiques. La fatigabilité, l'irritabilité peuvent être révélateurs d'un manque de magnésium, mais en règle générale, on ne fait pas de bilan spécifique pour rechercher ce trouble. En revanche, par exemple, le manque de potassium peut vous donner des crampes et parfois on a du mal à supplémenter des gens en potassium parce qu'il manque de magnésium.
Ah,
et donc à ce moment-là, on peut faire un bilan complémentaire et éventuellement recharger du potassium. Mais c'est rare, sauf cas très particulier, de rechercher que cette cause. Souvent, le bilan sert à éliminer d'autres étiologies, un problème de thyroïde, de foie ou de rein, peu importe. Parfois, on tombe sur quelques surprises.
Et est-ce que du coup, puisqu'on ne fait pas de recherche spécifique sur le potassium, est-ce qu'on peut se supplémenter tout seul, faire une petite cure de magnésium ? Là, il n'y aura pas de bac au sens strict du terme, mais c'est vrai que souvent, on voit des pubs au moment du bac, ça aide à se concentrer, le magnésium.
Oui, alors il faut rappeler qu'une alimentation équilibrée permet de couvrir tous nos besoins en vitamines et en oligo-éléments, sauf pour la vitamine D qui nous provient du soleil. Donc en règle générale, on ne devrait pas être carencé. Et pourtant, on a quasiment la moitié des gens qui sont carencés en magnésium. Donc pourquoi pas une cure ? Faites de 15 jours au-delà, ça ne sert strictement à rien, puisque toute vitamine qui va être ingérée en excès eh ben va se retrouver dans la cuvette des toilettes.
Ah ouais, on va l'éliminer, donc ça
ne
sert à rien.
Ce n'est pas forcément nécessaire, faites-le pendant 15 jours, éventuellement 4 doutes.
Et juste quel aliment est riche en magnésium pour le savoir comme
les
ça
les céréales complètes, tout ce qui est la banane, le cacao, les amandes, les noix de cajou, ce sont des éléments qui sont plutôt riches en magnésium. Et encore une fois, à moindre doute, petite cure de 15 jours avec votre pharmacien.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme cet auditeur qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec le groupe Soft Cell. Ça s'appelle Taint Love.
I toss and turn.
Le groupe Soft Cell et leur titre sorti en 1981 déjà qui s'appelait Taint Love.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed, et pour cette dernière séquence de la semaine, nous entendons les oiseaux, donc ça veut dire que c'est Catherine Blanc qui est en ligne avec nous. Catherine Blanc,
votre petit cuicui arrive.
Le cuicui du jour. Alors Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste, tout le monde le sait puisque on vous connaît quand même. Catherine, je vais vous lire la question aujourd'hui de Marion. Donc Marion nous a écrit la chose suivante: j'ai couché avec le mec qui fait rêver ma meilleure amie depuis un moment, je m'en veux mais j'ai vraiment adoré. Est-ce que vous pensez que je dois lui en parler ? Catherine, c'est vrai que la situation peut créer quand même un petit malaise, je le comprends. Elle s'en veut, elle le dit d'ailleurs, hein, mais bon, est-ce qu'elle a fait vraiment quelque chose de mal ? C'est pas comme si c'était le mec de sa copine, c'est celui qui lui plaît, donc je sais pas.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une question. Et dans la mesure où il y a une question, ça pose quand même si elle dit sans vouloir, elle dit qu'elle a adoré. Je crois que de toute façon, l'histoire ne concerne pas cette jeune femme avec ce jeune homme ou cet homme, mais bien une histoire entre deux femmes dont l'objet de désir s'est tourné sur l'une et pas sur l'autre. Donc il y a quelque chose qui est de toute façon dans son relationnel à son ami, qui est plein d'ambivalence, à la fois le besoin de la supplanter, le besoin de lui voler ce qui lui appartient, et d'aimer la possibilité d'avoir eu cette valeur que son ami n'a pas eue, et à la fois mêlée de culpabilité. Sans doute que dans cette histoire-là se rejouent des choses de l'ordre de la rivalité dans les fratries ou des choses comme ça qui ressurgissent et qui la tourmentent autant que ça l'excite et lui renvoie une idée de puissance d'une certaine manière.
Jimmy ?
Moi, j'ai deux règles dans la vie, no job in job, et la deuxième, c'est pas de problème de sexe ou autre avec quand il y a un ami en jeu. Donc,
quand il y a des sortes de
mais vous êtes parfait, Jimmy. Il a tellement de règles.
Est-ce qu'elle doit être transparente et dire qu'elle a fauté et s'excuser puisqu'elle n'aurait pas dû, il faut l'avouer.
C'est, voilà, la morale, selon docteur Jimmy Mohamed, attention.
Il faut bien faire la morale, et merci Jimmy d'être là. Évidemment qu'elle peut en parler. Maintenant, je crois qu'il faut en parler pour raconter ce que ça veut dire pour elle, parce qu'en effet, comme le disait très justement tout à l'heure Mélanie, cette personne, cet homme n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même. Donc il n'est pas question d'avoir volé quelque chose. Elle a juste brisé le fantasme d'une copine qui s'en était ouverte. Je crois que ce sont des histoires très adolescentes, hein. Beaucoup de fois, chez les ados, chacune ou chacun se dit, moi c'est un tel qui m'intéresse, ah bon. Et évidemment qu'il y a toujours un plaisir de s'évaluer dans la capacité à obtenir ce que l'autre voudrait, puisque quand on est ado, on veut la même marque sur soi que le voisin, la même mobylette ou le même scooter. Pardon,
voilà, elle n'est plus très ado, donc je remarquais, je ne dis pas quel âge elle a, mais bon.
Bah voilà, ouais. moins que vous sachiez vous de qui il s'agit, moi je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une attitude très adolescente, quand bien même ce serait une adulte. Il y a parfois, quand on a des doutes quant à soi, un besoin toujours de flirter du côté de ceux qui est attiré par l'autre. Regardez pendant les soldes la folie qui peut régner. Où vous vous intéressez à quelque chose, tout d'un coup tout le monde saute sur le truc sur lequel qui vous intéressez, et réciproquement, vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être très content d'avoir attrapé un vêtement, et tout d'un coup vous vous intéressez à ce vêtement que vous n'auriez pas pris sinon. Donc il y a quelque chose d'assez pulsionnel dans cette façon d'exister dans ce qui est censé être le désir de l'autre. Si l'autre a du désir et du plaisir, c'est que, ou a de la projection que ça pourrait lui faire du bien ou du plaisir, eh bien inévitablement ça donne un goût un peu sulfureux et l'envie de se l'approprier. Mais comme dit Jimmy, ça n'est pas bien.
Bon, après, si c'est arrivé une fois, moi je vais faire moins la morale que Jimmy. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de lui en parler ? Alors je dis pas après si ça match avec ce garçon et qu'elle finit par se mettre en couple avec lui, peut-être. Là, il faudra bien lui en parler, mais on peut pas juste ne rien dire et puis voilà, c'est fini.
On peut, bien sûr. Après, je pense que de toute façon, vu ce qui se joue, qu'elle a adoré, etc., sans dire d'ailleurs
qu'elle a... Ça risque de se reproduire, on le sent bien dans le message quand même.
Ou que ça risque de se reproduire, ou qu'elle pourra pas tenir sa langue, ou que, etc. Parce que dans la formulation de la question, on a un peu le sentiment quand même que l'homme est plus un objet qui n'est un vrai plaisir de rencontre avec des projets de partage à venir. Donc, je pense que c'est simplement goûter à l'interdit parce qu'il appartenait à la copine dans le fantasme, encore une fois, et auquel cas, je pense que de s'en ouvrir peut-être, ou en tout cas s'en ouvrir à soi-même, se dire que quand même on a joué un truc qui nous plaisait, il nous plaisait d'arriver à gagner sur la copine, à être plus vu que la copine, et c'est ça qui la tourmente, parce que qu'elle en parle, alors moi je n'irai pas nécessairement dans le sens de l'idée morale, qu'il faille dire ou pas dire, c'est que de toute façon, là pour l'instant la copine est toujours avec ses fantasmes, et celle qui est encombrée, c'est celle qui a vécu cette relation, donc c'est une histoire très personnelle et c'est à elle de la démêler, de choisir comment elle va la démêler.
Une dernière question, Jimmy.
Est-ce qu'on peut dire que Marion n'a été qu'une petite égoïste ou pas?
Il continue.
je pense que de toute façon, le désir érotique, le désir sexuel est de toute façon une expression égoïste. Quand on désire quelqu'un, on le désire pour soi, on le désire selon l'élan de son propre pulsionnel et pas parce que ça plairait à mes parents, ça ferait plaisir à ma copine ou parce que c'est le seul chat écorché qui reste dans la ville, alors je vais faire un acte de charité en lui faisant l'amour. Donc je crois que fondamentalement le désir amoureux est un désir égoïste et donc à ce titre, est-ce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y a un petit peu de cela et laisser de temps en temps, cher Jimmy, tomber notre morale?
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils.
De temps en temps. Hein.
Merci Jimmy pour votre avis avisé sur toutes ces questions. Merci beaucoup. On se retrouve bien sûr lundi à 15h. N'oubliez pas, si vous avez une question santé, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1, le 3921, 50 centimes d'euros la minute. On y répondra bien sûr dans l'émission dès lundi, sans problème. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.